Vous écoutez, on lit pour vous.
Mieux diagnostiquer la dérive américaine pour mieux y résister. Un texte de Jeannot Bourgeois, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir. En politique, le choix des mots n'est jamais neutre. Il dicte non seulement notre compréhension d'une menace, mais surtout la nature de notre réponse. Depuis l'ascension de Donald Trump, le terme fascisme est sur toutes les lèvres. Pourtant, s'obstiner à plaquer cette étiquette historique sur la réalité américaine actuelle pourrait s'avérer être une distraction dangereuse, surtout sur le plan stratégique. Pour ceux et celles qui ont à cœur de protéger les fondements de la démocratie libérale, il est préférable d'adopter un diagnostic plus précis, celui de l'autoritarisme compétitif. Le Trumpisme partage certes des traits avec les régimes des années 1930, culte du chef, nationalisme nativiste et rhétorique de crise. Toutefois, il s'en distingue sur des points fondamentaux qui changent tout à la stratégie de résistance. D'abord, contrairement au fascisme historique qui prônait un État omnipotent et dirigiste, le trumpisme s'ancre dans un néolibéralisme anti-étatiste. Son action repose sur la déréglementation massive et la réduction des impôts pour les plus riches, et non sur le contrôle de l'économie par l'État. De plus, le mouvement MAGA, Make America Great Again, ne s'appuie pas sur une milice paramilitaire de masse organisée comme les chemises noires de Mussolini. Enfin, sa politique étrangère est marquée par l'isolationnisme plutôt que par l'expansionnisme territorial agressif. L'autoritarisme compétitif est un mal plus insidieux. Ce n'est pas un coup d'État brutal par les chars, mais une mort lente orchestrée par un agent élu démocratiquement. Ici, on ne détruit pas les institutions, on les instrumentalise pour vider la démocratie de son sens tout en conservant une façade de légalité. En 2025, ce processus a atteint un stade critique aux États-Unis, marqué par la neutralisation des contrepoids institutionnels. Plusieurs manœuvres illustrent cette dérive. La purge de la fonction publique, le projet Annexe F vise à remplacer les fonctionnaires professionnels par des loyalistes révocables à volonté. L'instrumentalisation de la justice, l'utilisation du FBI et du département de la justice pour harceler des rivaux politiques ou protéger des alliés. La pression sur les médias et le savoir, par des poursuites coûteuses ou des menaces réglementaires incitant à l'autocensure préventive. L'autoritarisme compétitif n'est guère une meilleure nouvelle qu'un autoritarisme fasciste, mais il ouvre certaines possibilités de résistance plus difficiles dans un État fasciste. Si nous croyons faire face au fascisme, nous pourrions être tentés de croire que seule la violence peut l'arrêter. Or, face à l'autoritarisme compétitif, la résistance doit impérativement rester dans le jeu démocratique pour être efficace. Puisque ce régime dépend de sa popularité et d'une apparence de légitimité juridique et populaire démocratique, les leviers de résistance demeurent réels. Elle doit passer par la résistance institutionnelle, mobiliser le pouvoir judiciaire indépendant et le fédéralisme des États pour limiter les abus de pouvoir. Le refus de l'autocensure. Le secteur privé, les universités et les médias ne doivent pas se retirer de la sphère politique par peur du harcèlement sous peine de consentir par leur silence. La mobilisation civile coordonnée. Des organisations d'opposition bien financées et des manifestations de masse peuvent forcer le pouvoir à reculer. Le plus grand danger pour la démocratie américaine n'est probablement pas un assaut frontal par un parti républicain fascisé et armé, mais le fatalisme et l'apathie du reste de la société. En comprenant que les règles du jeu sont truquées, mais qu'elles existent toujours, les forces démocratiques peuvent se mobiliser pour mettre l'agent d'érosion, dans ce cas-ci le MAGA de Trump, hors jeu avant qu'il ne soit trop tard. Le terme fascisme a l'avantage de choquer et de sonner l'alarme, mais il a le défaut de mal diagnostiquer le problème et de mal orienter l'action. C'était « Mieux diagnostiquer la dérive américaine pour mieux y résister », un texte de Jeannot Bourgeois, publié le 12 janvier 2026 dans Le Devoir.
Là où on écoute vraiment les ados. Un texte de Marianne Cusson, paru le 17 octobre 2025 dans La Presse. Marianne Cusson a 16 ans. Elle fréquente la Maison des jeunes Traits d'Union à Victoriaville. Voici son témoignage. J'ai commencé à fréquenter une maison des jeunes, MDJ, dès que j'ai pu, à l'âge de 12 ans. Depuis des années, je voyais la sœur de mon amie aller à celle de notre ville et j'étais convaincu que j'y trouverais ma place moi aussi. Je ne me suis pas trompé. Aujourd'hui, ma MDJ est devenue ma deuxième maison. Certainement parce que je peux y faire une foule d'activités avec des jeunes de mon âge, mais aussi parce que j'ai la chance d'y rencontrer des intervenantes et des intervenants incroyables. En passant du temps avec ces adultes qui ne sont ni des membres de ma famille ni des professeurs, j'ai pu développer des liens de confiance précieux. Grâce à cela, j'ai pu m'ouvrir à eux avec plus de facilité lorsque j'ai eu besoin de soutien. Chaque intervenant est un modèle pour chaque jeune qui fréquente une MDJ. Ce sont des adultes qui ont pour objectif premier de créer un lien significatif avec les jeunes. Formés pour comprendre nos problèmes, ils et elles sont là pour nous donner des conseils avisés sur des sujets importants comme la santé mentale, les relations interpersonnelles, la sexualité, les dépendances ou encore le racisme. L'importance de la prévention. Une maison des jeunes, c'est un milieu de vie où on peut faire ce qu'on veut, tant que c'est respectueux, avec des intervenants pour nous accompagner. C'est un espace de soutien, d'accompagnement, de relations volontaires et égalitaires où on est challengé de façon positive. On y fait autant des activités ludiques que des ateliers de prévention. À mon avis, elle est vraiment là, la plus-value des MDJ. On parle beaucoup des situations en lien avec les ados quand ça dégénère. Intimidation extrême, gang de rue, surdose. On entend, et je le constate en regardant autour de moi, que la santé mentale des ados est fragile et qu'ils ont besoin de plus de soutien. Mais on ne parle pas assez de prévention, alors qu'au Québec, des centaines de MDJ ont justement pour mission d'en faire, contrairement à l'école. Écoutez-nous, les jeunes, nous sommes l'avenir. Bientôt, je serai trop vieille pour fréquenter ma MDJ. Je la quitterai avec un bagage immense, une meilleure connaissance de qui je suis et une capacité à m'affirmer davantage. Ce qui rend les MDJ si spéciales, c'est le fait que c'est un projet par, pour et avec les jeunes. Moi-même, j'ai la chance de siéger au Conseil des jeunes ainsi qu'au Conseil d'administration de la MDJ. Dans les deux cas, je représente les jeunes de ma communauté, je propose nos idées et je m'assure qu'on prend des décisions qui nous ressemblent. Je pense que plusieurs de nos institutions et nos décideurs devraient prendre exemple sur les MDJ et vraiment écouter les besoins et aspirations des jeunes. On dit souvent que les ados sont l'avenir, et c'est vrai, mais on est déjà là. C'est à l'adolescence qu'on se construit, et c'est à ce moment-là que les MDJ sont importantes pour nous aider à devenir des adultes qui se connaissent bien et qui ont tous les outils pour devenir des citoyennes et citoyens critiques, actifs et responsables. C'est nous, les ados, qui vivrons dans la société de demain. Et on mérite de participer à sa construction. C'était « Là où on écoute vraiment les ados », un texte de Marianne Cusson, paru le 17 octobre 2025 dans La Presse.
Gloria Bellis, la femme au cœur d'une victoire historique contre le racisme au travail, un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir. Il y a 60 ans, une infirmière noire s'est levée dans une salle de cours à Montréal pour témoigner et ainsi dénoncer une injustice raciste.
le courage de Gloria Bellis a mené à un jugement historique en 1965. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, une entreprise a été reconnue coupable de discrimination raciale en matière d'emploi. Une victoire retentissante, a souligné en entrevue le directeur général et fondateur du Centre culturel afro-canadien de Montréal, Alan Alexandre, qui a récemment organisé une conférence pour rappeler ce jugement marquant. C'est une histoire de courage, de détermination. Son combat était réellement pour changer les choses, pas pour elle-même. Tout ce que voulait Gloria Bellis en ce jour de septembre 1964 était de se trouver un emploi à temps partiel plutôt qu'à temps plein afin d'avoir plus de temps pour s'occuper de ses deux jeunes enfants. Née à la Barbade, formée en Angleterre et forte de son expérience de travail dans des hôpitaux montréalais, elle voit une petite annonce dans « The Montreal Gazette » et décide de postuler au poste à temps partiel offert à l'hôtel Reine-Élisabeth de Montréal. Elle s'y rend en personne, mais se fait dire que les deux postes d'infirmière annoncés sont pourvus. Elle le mentionne à une bonne amie qui devait aussi postuler au poste à temps plein. Celle-ci est étonnée. Elle a une entrevue sous peu. Madame Bellis décide donc d'appeler l'hôtel le lendemain. Au téléphone, personne ne voit la couleur de sa peau. Elle se fait dire que les deux emplois affichés sont encore disponibles et qu'elle peut venir remplir un formulaire. Avec l'aide de la Negro Citizenship Association, NCA, Madame Bellis dépose une plainte. Le procès. L'hôtel tente toutes sortes de défenses. Il se dit contre la discrimination et avance comme preuve d'avoir des employés noirs. Il prétend que Madame Bellis ne parle pas assez bien le français. Elle travaillait pourtant déjà comme infirmière dans cette langue. Il ajoute qu'il y a eu confusion ce jour-là. L'employé à qui elle a parlé en personne n'était pas le responsable de l'embauche et ignorait certaines informations. Dans une telle cause, la preuve de la race de la personne discriminée était alors essentielle, a expliqué plus tard l'avocat de la NCA, Maître Gérald Charnas, dans un compte rendu dactylographié. Il a dû demander à Madame Bellis d'identifier sa race, l'un des moments les plus dramatiques du procès. Il raconte qu'elle s'est alors levée dans la barre des témoins et a dit fièrement « Je suis noir ». En 1965, et s'exprimant en anglais lors du procès, elle a utilisé le mot « negro ». En entrevue, sa fille, Françoise Bellis, se souvient d'avoir été choquée, des années plus tard, en lisant ce mot offensant. Le 4 octobre 1965, le tribunal a conclu que l'hôtel avait violé la loi sur la discrimination en matière d'emploi au Québec, qui venait tout juste d'être adoptée, et lui impose une amende de 25 $. Le juge estime que Gloria Bellis a été traitée différemment des autres personnes ayant postulé au même poste en raison de sa race et de sa couleur, et non pas de ses compétences. L'hôtel fait appel de cette décision pendant 11 ans. En 1977, la Cour d'appel du Québec met un terme au débat en confirmant la condamnation initiale et en écrivant que la discrimination dans l'emploi est contraire à l'intérêt public. Un précédent jurisprudentiel. Dans son compte rendu, Maître Charnas mesure l'effet de ce jugement. Ce qui est important, c'est qu'il a été établi clairement que cela est une infraction et que la loi sur laquelle elle est fondée a des dents et peut être appliquée. Bien qu'il estime que la loi comporte des failles, il croit que la couverture médiatique de l'affaire va avoir un effet thérapeutique sur les pratiques en emploi au Canada. L'importance de cette loi n'est pas tant qu'elle prévoit une sanction pour ceux qui sont coupables, mais plutôt qu'elle a un effet dissuasif pour ceux qui, sans elle, seraient coupables, écrit-il. Avec ce jugement, on renversait des normes sociales, a renchéri M. Alexandre. Une histoire méconnue. La propre fille de Gloria Bayliss n'a appris que bien plus tard sa participation à ce combat. Ma mère ne parlait pas de ça. Mais lorsqu'elle avait 16 ans, un photographe est apparu à la maison pour prendre des clichés de sa mère, raconte la bioéthicienne Françoise Bayliss en entrevue au Devoir. J'étais bouleversée. Elle ignorait tout de cette histoire, mais dit qu'elle cadre avec la personnalité et l'attitude de sa mère, qui l'ont toujours inspirée à agir pour le bien de la communauté. Elle était très active. Elle ne s'est jamais assise pour se plaindre. Elle utilisait son énergie positive pour régler les problèmes devant elle. Elle nous disait qu'on pouvait tout faire. Il n'y a pas eu de célébration quand les efforts judiciaires de Mme Bayliss ont été couronnés de succès. Je crois qu'il n'y avait pas d'intérêt à regarder de près la présence du racisme au Canada, dit-elle. Mais elle se réjouit désormais de se faire approcher par des jeunes qui lui disent que les actions de sa mère ont changé les choses. Rappeler son histoire peut aider les gens à se tenir debout, opine M. Alexandre. C'est peut-être celle d'une personne noire, mais elle appartient à tout le monde, ajoute-t-il, en soulignant que sa victoire a bénéficié à bien d'autres communautés. Gloria Bayliss a continué de pratiquer comme infirmière pendant des années et a ensuite fondé la Bayliss Medical Company, une fondation qui finance divers projets en santé et qui porte son nom. En 2017, l'année de son décès, le poète officiel du Canada lui a dédié un poème « Hommage à Gloria Clark Bayliss, pionnière de la défense des droits de la personne au Canada ». Et dès janvier 2026, une exposition lui sera consacrée au Centre Sanaac à Montréal, dirigée par l'historien Webster. C'était Gloria Bayliss, la femme au cœur d'une victoire historique contre le racisme au travail, un texte de Stéphanie Marin, paru le 13 décembre 2025 dans Le Devoir.
Prochain dent, je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai. Un texte de Daniel Leblanc, publié le 30 janvier 2026 dans Le Droit. La Gatinoise Renée Labelle garde des souvenirs impérissables du soutien à domicile qu'elle a réussi à obtenir, ayant dû, comme plusieurs, se tourner vers le privé dans les derniers mois de la vie de son père, Clayton, décédé en mai dernier à l'âge de 95 ans. Dans sa maison, aménagée dès le départ en prévision qu'elle ou son époux y accueille l'un de leurs parents vieillissants, elle a vécu avec son paternel de 2021 à 2025. Il disait toujours non à l'offre d'habiter sous le même toit, mais il a changé d'avis un an après le début de la pandémie. Il était autonome en appartement à Ottawa, mais à cause de tout ce qui se passait et qu'on entendait dans les CHSLD, les histoires d'horreur, il a accepté, raconte-t-elle. Et lui, il pensait que ça durerait un an, mais on a été 4 ans ensemble. Ça a été absolument magnifique. Le déclin. Si les deux premières années se sont bien déroulées sur le plan de la santé de son père, une vilaine chute a causé un certain déclin. Puis, pendant l'été suivant, il est tombé une autre fois. Ensuite, en novembre, il a été hospitalisé 6 semaines. Puis quand ils l'ont renvoyé à la maison, un 23 décembre, il n'était plus stable, pas solide. Médicamenté et moi, je n'avais aucune aide, se remémore Madame Labelle. Tout a commencé à se gâter par la suite. Dans les jours suivants, il a fallu commencer à poser un cathéter à son père et la fatigue a commencé à s'installer sournoisement. Angoissée, elle a appelé, bien chez soi, une entreprise d'aide à domicile comptant plusieurs points de service en Outaouais comme ailleurs. Voyant venir les coups, elle avait d'ailleurs déjà lâché un coup de fil quelques semaines plus tôt. C'est vraiment là que j'ai perdu ma capacité d'être proche aidante. Je suis quand même en parfaite santé et forte, mais je ne suis pas une infirmière. Le jeudi soir, j'ai posé le cathéter et le lendemain, j'ai complètement paniqué. Je leur ai dit que je ne pouvais pas faire un autre matin, je n'étais pas capable de le lever pour le nettoyer, répondre à ses besoins pour qu'il soit bien longtemps. René Labelle. Dès le lendemain, à son énorme soulagement, une aide à domicile avec un auxiliaire de vie sociale lui était donnée. Les liens n'ont pas tardé à se tisser. C'était comme un petit ange qui entrait dans notre maison, lance-t-elle en parlant de Roudelin, l'homme d'une grande carrure et à la voix douce qui est entré dans sa maison. On a su que c'était le bon dès le début. Il est resté avec mon père jusqu'à la toute fin. Le dernier matin, quand on est allé à l'hôpital, il était là, ému. Il s'est investi. C'est un homme exceptionnel. René Labelle parle avec tout autant d'affection de Marie qui a accompagné son père. Elle était comme une fleur. Elle était plus petite et quand je lui ai demandé si c'était devenu trop difficile, qu'elle pouvait se faire mal, elle a dit « Non, ton père, c'est comme mon père. Je vais rester aussi longtemps que vous le souhaitez », se rappelle-t-elle impressionnée. Tout juste avant son décès, Clayton a pu passer ses dernières heures avec sa famille, des enfants aux arrière-petits-enfants. Une soirée à l'extérieur, toute simple, avant le coucher du soleil. C'était une soirée magnifique. Et elle, Marie, a joué le rôle de proche aidante. Elle m'a laissé être la fille. Je n'ai pas eu besoin de l'amener à la toilette, etc. Ce soir-là, c'était seulement moi et mon père. Avec mes enfants, la famille, etc. Il n'y a rien qu'elle n'a pas fait, confie-t-elle émotive. Tenir le coup. Madame Labelle soutient avoir vite réalisé à quel point ce coup de main est primordial pour tenir le coup, autant mentalement que physiquement. On ne le réalise pas, mais Woodlin venait et ne restait que 45 minutes, le temps de le lever doucement, le nettoyer, l'asseoir dans sa chaise pour qu'ensuite je lui serve à déjeuner. Tout cela prend beaucoup d'énergie. Et le plus le temps avançait, moins il était autonome, dit-elle. Ce n'est pas comme si je pouvais le laisser là et partir. Papa ne pouvait pas rester seul. À la toute fin, elle n'a eu d'autre choix que de recourir à un soutien à domicile presque 24 heures sur 24. Les saisons ont passé, le deuil est encore frais, mais avec le recul. La proche aidante admet qu'elle n'aurait pu s'en sortir seule avec son mari. « Il serait mort, » répond-elle au bord des larmes, quand on lui demande comment elle imagine le scénario sans aide. « Ça m'a pris de mai jusqu'à la fin septembre avant de ravoir mon corps. Tout mon bras droit était complètement fichu, ma hanche gauche aussi. » C'est pesant, un homme. Rire. En Outaouais, en date du 31 mars dernier, on comptait 1728 personnes en attente d'un service à domicile. Au prorata de la population, c'est environ 4 fois plus que dans les régions de Laval et de Montréal. Bien qu'elle indique qu'elle n'aurait pas accepté cet argent pour prendre soin de son père, la Gatinoise applaudit l'annonce par le gouvernement du Québec jeudi que les proches aidants, selon certains critères, pourront désormais être rémunérés 21 $ l'heure, au même titre que les travailleurs d'aide à domicile, en marge de la politique nationale de soutien à domicile, PSAD. Ce n'est pas une mauvaise idée. Il y a des gens qui pourraient vraiment en profiter, surtout si c'est ton conjoint. Tu es là, de toute façon, tu pourrais faire la moitié des heures toi-même et embaucher pour l'autre moitié. Je pense que c'est une validation que c'est quelque chose de difficile. Je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai. René Labelle. Disant avoir elle-même appris « on the fly », sur le tas, beaucoup de choses durant cette expérience de vie, elle estime que le réseau public va devoir s'ajuster et qu'on devra miser encore davantage sur les services de soutien à domicile, un volet sous-valorisé avec le vieillissement de la population. Ça a fait durer mon père avec une qualité de vie incroyable. C'est les proches aidants et le soutien à domicile sous-évalués à la fois financièrement et aussi socialement. Et c'est essentiel comme travail, pas secondaire, s'exclame-t-elle, traçant un parallèle avec les éducatrices à la petite enfance, par exemple. C'est la personne qui donne la dignité et une certaine santé à la personne qui reçoit les soins. Et ça peut être pendant plusieurs années, si c'est bien fait. Investissement réclamé. Soulignant que l'état de santé de son père s'est par hasard dégradé 3 jours après qu'elle ait pris sa retraite, ce qui a facilité les choses étant donné que le défi aurait été tout autre en étant sur le marché du travail, Mme Labelle se dit aussi pleinement consciente que ce n'est pas tout le monde qui peut débourser pour de tels services auprès du privé. La dame, qui estime que le réseau public doit par ailleurs davantage serrer la vis pour l'expérience et la formation du personnel déployé, en plus de hausser le plafond d'heure imposé en soutien à domicile, aimerait que des investissements massifs soient effectués. Nos services publics, c'est l'une des choses les plus importantes et on dirait que c'est là où on coupe tout, en éducation, en santé, dans les services gouvernementaux, etc. Je veux payer mes taxes pour que ça fonctionne, mais là, on paie, mais dans notre région, on reçoit un peu partout que le minimum de services. D'ici 2040, une personne sur 4 aura 65 ans et plus en Outaouais, bien que la région ait actuellement l'un des ratios les plus faibles dans cette catégorie d'âge au Québec. C'était, proche aidant, je n'ai jamais rien fait d'aussi difficile, mais je le referai, un texte de Daniel Leblanc, publié le 30 janvier 2026 dans Le Droit.